Rockoscopie, la culture rock sur Judaïque FM.
Soyez les bienvenus, bonsoir, bienvenue dans Rockoscopie. Et ce soir, on va parler d'un phénomène très particulier et je dirais même très britannique, l'école de Canterbury, avec l'auteur d'un livre qui sera peut-être le livre référence du genre, et peut-être pas seulement en France, Aymeric Leroy, bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
Content de te recevoir à nouveau dans cette émission, puisque t'es quand même pas à ton premier bouquin chez Le Mot et le Reste, qui est l'éditeur de référence pour la musique depuis maintenant un certain temps en France. On peut le dire sans faire de pub, parce que c'est vrai. Et du coup, c'est une somme où t'as voulu quand même en dire énormément sur un genre qui non seulement est peu connu en France, mais aussi ailleurs, et puis surtout un genre qui est ta passion ultime à toi. On peut le dire. Ouais. Et donc, tout de suite, avant de jouer au jeu des définitions, vous allez découvrir un des groupes fondateurs du genre, si ce n'est peut-être le groupe fondateur, Soft Machine, un extrait du premier album paru en 1968, Why Am I So Short? Say I don't deserve all the things I've had. Soft Machine sur Judaic FM. Voilà, vous venez d'écouter un morceau emblématique d'un style que les fans appellent le Canterbury tout court, que d'autres vont appeler le rock de Canterbury, même si le rapport avec la ville, on en parlera, n'est pas si direct. D'autres vont encore appeler ça une forme de tel ou tel rock progressif ou jazz fusion. Mais en tout cas, Aymeric, si, enfin, tu donnes un peu une définition et ça correspond en quelques mots à celle qu'on peut donner si on veut aller un peu vite. C'est d'abord typiquement britannique. Ensuite, il y a un peu de rock progressif, il y a un peu de jazz, il y a un peu de un côté psychédélique. Il y a des textes qui sont subtils et il y a de l'humour.
Ouais, alors ça, c'est une définition qu'on peut donner avec le recul du temps. À l'époque, je pense que tout le monde baigne un peu dans le même jus culturel, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, pour des musiciens qui sont en quête de choses un peu plus sophistiquées, ils ont tous un peu baigné dans le jazz en étant adolescents, plus que dans le rock d'ailleurs à leur début. Donc les Beatles, un peu pour eux, ont changé la donne en introduisant quand même une pop plus expérimentale. Puis bon, après venant tout le mouvement psychédélique dans son ensemble, les a inspirés à se rapprocher justement d'une musique plus rock, plus pop. Et au sein de ce qui était à l'époque un genre musical très ouvert, dans lequel on pouvait tenter toutes sortes de mélanges, hein, ça c'est l'héritage du psychédélisme, bon, bah, ils ont mélangé toutes ces influences avec, peut-être comparé à la scène progressive anglaise dans son ensemble, cette nuance plus jazz et aussi cette dimension plus humoristique, non prise de tête, quoi. C'est-à-dire on ne part pas dans des grands concepts à prétention philosophique, mais on raconte des histoires un peu absurdes ou volontairement banales. Voilà, avec cette influence aussi de la pataphysique, de l'absurde, ce genre d'influence.
Alors du coup, il y a presque un côté plus littéraire que le prog, qui se voulait avant tout une musique qu'on écoutait assis de façon quasi religieuse, avec des mouvements inspirés de la musique classique, et donc une, entre guillemets, prétention à faire des œuvres qui sont de la même profondeur que des symphonies romantiques ou des grands albums de jazz. Et alors à côté de ça, à côté de tout ce dont tu viens de parler, il y a aussi une forme d'humilité à côté de ça, parce qu'à l'époque, commençait donc le progressif, mais aussi le hard rock, la virtuosité était quand même de mise.
Tout à fait. Alors bon, l'histoire de la modestie par rapport à la virtuosité, c'est un sujet qu'on pourrait explorer longtemps. Je ne sais pas, il y a une forme de posture anglaise aussi, que je pense si on veut être un peu plus critique et ne pas prendre forcément pour argent comptant les postures qu'ils affichent, le rock progressif, quelque part, prend le risque de se prendre au sérieux et donc de se faire critiquer pour ce qu'il essaie de dire. La scène de Canterbury est plus maligne, plus habile, c'est-à-dire qu'elle prétend n'avoir rien à dire, tout en faisant comme une musique assez ambitieuse, assez complexe, et c'est assez habile et assez anglais, finalement, d'arriver avec cette posture ironique, mais quand même, malgré tout, en ayant pas mal de points communs, finalement, on peut dire, sur une forme de prétention musicale, si on veut être critique. Je ne vois pas forcément une contradiction totale, voilà, mais une posture assez... assez maligne, quoi.
Mais pour autant, si on prend... alors évidemment, on n'est pas en 1967 ou même en 72, ces années où la créativité du rock était extraordinaire. Les fans de rock progressif à la Genesis vont pas forcément apprécier le style Canterbury.
Non, c'est un peu dommage. Bon, moi, je suis l'un des rares à faire un peu le grand écart entre les deux. C'est vrai que c'est pas tout à fait le même public en général qui écoute. Peut-être que le public de Genesis, par exemple, ou de Yes, est plus branché par des harmonies classiques, une texture symphonique grandiose, ce que n'a pas, effectivement, à quelques rares exceptions près, la scène de Canterbury, qui cultive aussi une forme de dissonance, une forme de sophistication harmonique, rythmique, parfois poussée à l'extrême, et parfois emballée dans une idée d'absurdité, dans la complexité aussi. Donc c'est effectivement, ça attire un public qui est peut-être plus pointu, plus aventureux. Et oui, voilà. Je sais
ça
pas
fait peut-être le lien aussi avec le jazz, alors qu'un amateur de jazz fusion peut apprécier le rock progressif parce qu'il y a plein de points communs qu'on ne va pas lister ici. Mais en plus de ça, le côté aventureux que tu soulignais, qu'on verra peut-être aussi un peu tout à l'heure dans les morceaux qu'on va diffuser, l'exigence aussi de musicalité et de recherche d'originalité, peut-être que ça irait vers presque de la musique contemporaine ou expérimentale parfois.
Oui, là, justement, au niveau des influences classiques, on pourrait dire que le rock progressif souvent s'arrête à la à la frontière du XXe siècle. Et la musique de Canterbury, en plus, a fortiori, si on l'étend à des groupes comme Enrico, tout ce qu'on appelle le rock in opposition, où là, on atteint des sommets de sophistication harmonique et même parfois de détours vers la tonalité, ce genre de choses. Donc effectivement, là, les influences sont allées plus loin chronologiquement, et des gens comme Mike Rutledge, par exemple, le clavieriste de Soft Machine, est quelqu'un qui vient au départ vraiment de la musique contemporaine assez aride et du free jazz. C'est quelqu'un qui s'est mis à faire de la pop ou du rock qu'à contre-emploi, poussé par ses petits camarades, quoi.
Oui, là, ça ressemble, et ça n'a rien à voir, comme quoi l'exemple, on le trouve un peu partout, bien qu'il soit anglais, à ce qu'a pu faire un Joe Jackson, hein.
Oui, alors là, c'est vraiment... on tombe sur quelqu'un que je connais très très mal, là, Joe Jackson.
Bon. Ah bah, en tout cas, voilà, je te le dis, il fait du rock très classique au début, et au bout de 3 albums, c'est Big Bang de jazz, musique de film et symphonie classique.
Ouais.
Donc ça va très très loin, signé sur un label classique, etc. Mais il y a aussi d'autres exemples, comme Zappa par exemple,
ouais,
qui fait du rock alors qu'il est éduqué entre guillemets musicalement, qui sait lire et écrire une partition, et que son dieu c'est Varese, et que pour le coup faire de la musique à 4 temps pour danser à la base, mais ça lui importe peu.
Ben alors, c'est toujours difficile avec Zappa de savoir où est la part d'opportunisme de calcul. En même temps, je pense qu'il détestait pas non plus complètement le rock, et que c'était pas pour lui un pur compromis, qu'il n'aurait pas forcément rêvé de faire uniquement une carrière classique contemporaine, et que c'est quelqu'un justement qui appréciait le mélange de toutes ces choses. Et bon, c'est par ailleurs, pour revenir au sujet, c'est une influence assez majeure, Zappa, chez tous ces musiciens-là, parce qu'il a ouvert beaucoup de portes pour cette génération de musiciens.
Ah, il faut quand même qu'on parle de cette ville, Canterbury. Ouais. Alors, c'est la ville d'origine de certains musiciens, mais si j'ai bien lu, pas forcément la plupart. Et puis surtout, leur carrière n'a pas forcément démarré là-bas.
Alors, elle a démarré là, avant qu'ils soient connus, pour la plupart. Caravan est un groupe qui est resté basé à Canterbury, et qui l'est toujours, d'ailleurs, plus ou moins. Soft Machine, par contre, c'est vrai qu'ils ont leur racine aussi à Canterbury, mais qu'ils n'ont commencé à vraiment entrer en activité qu'une fois sur Londres. Et c'est vrai que c'est à Londres que la scène de Canterbury a pris toute son ampleur, puisque c'était le lieu de convergence de musiciens qui venaient également d'autres villes. Donc il y a des musiciens londoniens comme Stevie Ledge ou Dave Stewart, des musiciens qui venaient plutôt de la région de Cambridge comme Phil Miller, Pete Pyle, tous ces gens. Et puis bon, un David Allen par exemple qui lui venait carrément d'Australie, et il y a quelques ramifications françaises évidemment par Gong aussi. Donc l'origine géographique à Canterbury, on peut penser qu'elle relève d'une forme de hasard. Alors elle est avérée historiquement, mais on peut considérer qu'elle est finalement assez anecdotique, mais peut-être pas tant que ça finalement, parce que comme j'explique dans le livre, c'est quand même le berceau Canterbury de l'église anglicane. Plusieurs de ces musiciens sont passés par les chorales de l'église, et ont gardé quand même une empreinte de cette approche mélodique assez sobre, assez épurée, et qui explique beaucoup le type de chant qu'on entend dans l'école de Canterbury, qui est souvent justement complètement dénué des affectations un peu bluesy que faisaient les groupes de l'époque, parce qu'on était en plein blues boom en Angleterre, et beaucoup de groupes essayaient plutôt d'imiter les modèles américains. L'école de Canterbury, tout de suite, les musiciens, les chanteurs assument leur accent et chantent des mélodies assez épurées, sans tous les maniérismes qu'on entendrait habituellement. Donc il y a sans doute un ancrage géographique assez... qui conviendrait d'ailleurs d'explorer, parce que ça renvoie sans doute à des compositeurs anglais de musique savante ou religieuse. Moi, c'est quelque chose que, je vais essayer de m'y intéresser un peu plus.
Mais ça, dans ce cas-là, si on parle de cette définition, ça aurait pu être aussi Oxford ou Cambridge.
Bah justement, peut-être pas pour cette raison. Des gens comme Richard Sinclair ou bon Mike Rutledge étaient également enfants de chœur. Hein. Je crois que son père dirigeait le chœur d'ailleurs de la cathédrale de Canterbury. Donc il faut croire qu'il y a quand même quelque chose de très typique de cette région-là.
Il faut qu'on dise, hein, si je ne me trompe pas, c'est à l'est de l'Angleterre, hein, près de la côte en fait.
Oui, c'est entre, disons que c'est entre Douvres et Londres en fait finalement.
Quand pas très loin de la France.
Quand on prend l'Eurostar, on passe par une gare qui s'appelle Ashford International. Bon bah c'est à deux pas de Canterbury. Hein.
Alors en même temps, c'est pas non plus lié par exemple à une école de musique particulière ou au fait qu'il y a eu des groupes qui avant ce mouvement-là, qui portent le nom de la ville et donnaient un peu l'impulsion. Parce que ça, c'est une question qu'on pouvait se poser pour, je ne sais pas moi, les écoles d'art à Londres pour certains groupes comme Pink Floyd peut-être.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a tout ce phénomène des art schools dans l'origine des musiciens de rock des années 60. Alors c'est un phénomène un peu particulier parce que souvent les écoles d'art ont ouvert leurs portes à des jeunes qui étaient un petit peu en rupture scolaire. Donc finalement c'était un refuge, je vais pas dire pour des cancres, mais au départ des musiciens, des jeunes qui n'avaient pas trop le profil. Donc c'est assez particulier, c'est aussi l'époque où le service militaire est aboli en Angleterre, donc les jeunes cherchent un peu d'autres voies. L'école de Canterbury, c'est plus lié à déjà des rencontres au départ au sein d'une école, alors qui n'est pas du tout musicale, mais qui est une école qui s'appelle la Simon Langton School, qui était un établissement local où il se trouve que sont passés à la fois Robert Wyatt, Mike Rattledge, Hugh Hopper, David Sinclair, des gens comme ça. Et ils se sont d'abord rencontrés là. Et après, il y a eu un élément extérieur qui était David Allen, cet Australien beatnik qui avait 6 ou 7 ans de plus qu'eux, qui a débarqué dans ce petit monde, qui était déjà assez mélomane, mais encore assez velléitaire. Et lui est arrivé avec sa pile de disques de jazz, avec son attitude qui consistait à dire bah, « Moi, je vais assumer ma vie telle que je veux la vivre. Je m'en fous d'avoir un job. Je vais faire de la musique, je vais faire de la poésie. » Et donc, inspiré par ce personnage qui était un peu leur aîné et leur mentor, bah, tout ce groupe de jeunes musiciens amateurs s'est embarqué dans la musique de façon beaucoup plus sérieuse et on fait carrière, en tout cas pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années, pour les plus persévérants.
Avant qu'on écoute un deuxième titre, qui est un deuxième groupe fondateur, parce qu'en fait, comme c'est toi qui as fait la programmation, tu as choisi pratiquement les groupes les plus importants pour aller vite et puis aussi pour permettre aux auditeurs et aux auditrices d'avoir un bon aperçu de ce que c'est, et en espérant qu'ils aient la curiosité d'aller un peu plus loin. Je voulais te demander ce qui, toi, en tant que mélomane, t'intéresse particulièrement, te touche particulièrement de ce genre-là?
Alors moi, je peux parler de la façon dont je suis tombé sur cette musique dans mes explorations musicales quand j'étais adolescent et que j'ai commencé à explorer tout ce qui se présentait à moi. Je me suis arrêté sur cette musique parce qu'il y avait ce mélange de sophistication et de recherche dans l'écriture musicale, des choses assez structurées. Et en même temps, comparé par exemple au rock progressif, que j'aime beaucoup, mais qui... Là, on parle vraiment de mon style préféré au sein de tout ça. Il y a aussi cette dimension plus improvisée, plus jazz. Et puis donc toutes ces caractéristiques que je disais, que j'ai résumé un peu dans mon livre sous forme de système de contradictions apparentes, où finalement l'école de Canterbury refuse de choisir. C'est-à-dire parfois c'est humoristique, parfois c'est sérieux, parfois dans le même morceau, parfois c'est mélodieux, parfois c'est dissonant, et tout ça peut se mélanger, alors qu'on a plutôt tendance dans les autres musiques à choisir. C'est-à-dire on fait soit quelque chose de très mélodique et de très sérieux, soit quelque chose de dissonant et de parodique. Et la scène de Canterbury, ça réussit à être tout ça à la fois. Donc il y a une espèce de maximalisme qui moi me plaît beaucoup, parce que ça me comble simultanément sur plein de niveaux.
Alors on parlera de ce groupe très important qui est Caravan juste après cet extrait de l'album de 1970. C'était pas le premier?
Non, c'est le deuxième.
C'est le deuxième. Et alors pour le coup, il y a un des grands éléments fondateurs du genre, c'est que c'est de la musique avec un rythme impair. Donc vous allez voir, c'est un rythme à 7 temps. If I could do it all over again, I would do it all over you, c'est ça?
Tout à fait.
Get it over, then I'm gone. And you can get away.
l'actu rock du dimanche sur Judaïque FM.
Ce soir, on s'intéresse à ce phénomène si particulier, l'école de Canterbury, avec Aymeric Leroy qui signe un énorme bouquin aux éditions Le Mot et le Reste, qui s'appelle justement l'école de Canterbury. Et on ne l'a pas encore dit, mais il y a quand même la préface de Jonathan Coe. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'étais quand même assez admiratif. Il a demandé 3 millions pour le faire, ou il s'est dit, mais c'est génial un type qui écrit oui. sur...
Non, il m'a fait un prix, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que je côtoie depuis assez longtemps, parce que c'est vraiment un fan de cette scène, et donc moi j'ai rencontré en 2002, donc ça commence à dater, et très vite on s'est mis à discuter de façon très, très érudite pour lui. Moi j'imagine que c'est, on s'y attend de ma part, mais lui connaît vraiment presque aussi bien que moi tous ces trucs-là, les moindres BBC sessions de Hatfield and the North, il connaît, et bon après il est devenu assez copain avec ces musiciens-là aussi, et c'est vrai qu'il avait fait ce livre qui s'appelait The Waters Club, voilà. En français Bienvenue au Club, mais bon le titre anglais en tout cas fait référence à l'album Hatfield and the North, qui est un peu l'un de, sans doute son disque préféré, quoi.
Voilà, et un des sommets du genre, je crois, on peut dire, reconnu internationalement. Et en plus de ça, c'est quand même un auteur qui, pour les amateurs de littérature, a un certain statut, qui est traduit dans plusieurs langues, et ça donnait un éclairage au rock de Canterbury. Inespéré, ce livre.
Oui, tout à fait.
C'est pour ça que je parle de sa préface.
C'est même assez pointu dans certaines anecdotes. Si on lit le livre, il se permet de faire des petits épisodes là-dedans qui sont assez savoureux pour les fans. Il parle de concerts ou d'anecdotes assez précises. Voilà, bon, c'est dans ce livre-là qu'il a écrit, parce que ses intérêts musicaux se limitent pas à ça, et puis sa vie littéraire non plus. Donc c'est vrai que ses livres traite pas mal de thèmes différents. Mais voilà.
Alors en plus de ça, tu vas me dire, j'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble que c'est lui qui l'a dit dans sa préface, son admiration pour ce mouvement-là, c'est aussi que c'est de ces musiciens de la scène de Canterbury, aucun n'est devenu ni célèbre ni riche.
Ouais.
C'est incroyable quand même. Et quand on voit le rock de l'époque, où des groupes qui n'avaient pas forcément... un grand intérêt ou une grande virtuosité, une grande créativité, pouvaient devenir des stars. Je sais pas, on pense par exemple, je sais pas, à Grand Funk aux États-Unis ou Slade en Angleterre. On peut pas dire que, moi j'aime bien ces groupes, mais on peut pas dire que ils aient révolutionné le genre. Ils ont été des stars, mais là non, jamais quoi.
Ouais, ce qui est amusant à propos de Slade, c'est qu'ils étaient managés par Chas Chandler, qui était l'ancien manager de Soft Machine justement. Donc lui, c'est un peu raté à ses débuts de manager, et il a connu beaucoup plus de succès derrière. Non, alors sur l'absence de succès, ben on peut voir ça de plusieurs manières. Hein. Soit on peut simplement dire que c'est une musique destinée à des gens qui ont des goûts trop farfelus pour vraiment toucher le grand public. Après, bon, le fait qu'il ne soit pas devenu riche et célèbre, c'est vrai que ça confère une image de respectabilité et d'intégrité.
Mais c'est pas qu'ils ne soient pas devenus, ils n'ont jamais été. Parce que certains ont été riches et ensuite ont galéré. Et on le voit bien, par exemple, avec les revivals de certains groupes dans tous les styles. Ouais. Des gens qui font des tournées parce que le disque ne se vend plus, qui arrivent à 65 ans, qui sont là dans des festivals. Là, c'est jamais, en fait. C'est ça qui est...
Ouais, non, c'est... Alors... Tout est relatif, hein, parce qu'en France, ces groupes étaient quand même assez gros à une époque. Je rappelle toujours que vers 69-70, Pink Floyd, Soft Machine étaient à égalité. Alors il y en a un, évidemment, qui a bénéficié de sa stabilité, puis qui est resté ancré quand même dans le rock, la pop, et à faire une musique d'ailleurs de moins en moins expérimentale et de plus en plus accessible, donc Pink Floyd. Soft Machine, malheureusement, a perdu Robert Wyatt, donc a arrêté de chanter, est parti dans du jazz limite free, donc a fait le plan de carrière le plus épouvantable qu'on puisse imaginer. Et donc, bon, c'est quand même sur ces bases-là que des parcours peuvent diverger de cette manière, avec d'un côté le succès et de l'autre l'obscurité croissante.
En même temps, ce qu'on voit à travers le livre, c'est cette incroyable liberté, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aucun de ces groupes, quasiment, sauf peut-être ce que tu décris sur Caravan, sur un peu la fin, n'a fait de compromis sur ce qu'ils avaient envie de faire, ou sur les inévitables brouilles entre musiciens, etc. Je fais ce que je veux tout le temps, quoi.
Ouais, alors... Pour partie, je dirais que c'était le cas de tous les groupes. Quand on voit ce que faisait Yes ou Jeff Rotel ou des groupes comme ça, en 73-74, le genre d'album qui sortait, hein, je pense à Passion Play, à Relayer, des albums comme ça, je serais tenté de dire la même chose, hein, qu'ils se privaient de rien et qu'ils n'avaient aucune conscience et aucune préoccupation de rationalisme commercial, quoi, on va dire. Ce qui s'est passé pour l'école de Canterbury, c'est qu'ils sont restés plus longtemps dans cette posture. Puis bon, c'est vrai que le succès n'aurait pas monté à la tête par définition. Et il y a un autre phénomène aussi qui s'est présenté à la fin des années 70, c'est-à-dire que leur positionnement un peu à cheval entre jazz et rock leur apportait préjudice, parce que justement tout le mouvement jazz fusion, tous les rapprochements entre jazz et rock ont eu mauvaise presse à partir de 75-76, et ils se sont retrouvés un petit peu dans un no man's land commercial où ils n'intéressaient plus vraiment ni les fans de rock ni les fans de jazz, alors qu'au début des années 70, ils étaient plutôt dans l'air du temps, parce qu'on cherchait justement à créer des fusions hors des frontières de style, quoi. Donc ça leur a aussi beaucoup porté préjudice.
Alors c'est vrai, on n'a pas encore parlé de l'organisation du livre, mais comme j'ai l'impression que le fil conducteur c'est la carrière de Soft Machine, Caravan et Gong, ces trois groupes ont quand même eu, eux, à un moment, un vrai succès, une vraie vie d'artistes qui pouvaient vivre de leur musique confortablement.
Oui, alors en tout cas dans la marge un petit peu, c'est-à-dire en dehors de la pop mainstream qu'on voyait chez les Carpentiers à la télé, même s'il y a pas mal finalement d'émissions de télé, si on va sur YouTube où on voit Soft Machine à l'époque, Gong, et des groupes comme ça.
Ils passaient à la télé française.
Mais en tout cas, pour ce qu'on appelait l'underground ou la contre-culture, ils étaient un peu les groupes vedettes de ça. Bon, Gong et Magma par exemple, sur le circuit des MJC dans les années 70, étaient les groupes vedettes. Donc dans ce circuit-là, qui était minoritaire, mais qui malgré tout touchait une bonne partie de la jeunesse, c'était des groupes références, et n'importe quelle personne de cette génération-là, qui est un tant soit peu mélomane, il se rappelle de Gong, de David Allen, de la Banana Moon, et tout ça, quoi. Particulièrement Gong, d'ailleurs, puisque Gong, c'est un groupe un peu à part dans la scène de Canterbury, qui a en plus cette image un petit peu d'humour, de délire, avec des shows assez spectaculaires, aussi bien au niveau du son que des effets de lumière, et tout ça. Les autres, Soft Machine et même Caravan, par exemple, sont des groupes assez austères, ils se contentent de jouer sans la moindre mise en scène, leur musique. Donc c'est pas non plus taillé pour attirer le non-mélomane, le mélomane non averti.
On pourrait ajouter que l'esprit suffisamment large du public à l'époque, fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70, a fait en sorte que Soft Machine a accompagné Jimi Hendrix en tournée pendant de plusieurs dates, et qui se sont côtoyés de très très près, et ça tu le racontes.
Oui, plusieurs dizaines de dates, même, on peut dire. Ils étaient managés par justement Chas Chandler, l'ancien bassiste des Animals, et donc Chas Chandler avait découvert Hendrix, et qui a eu beaucoup de succès, malheureusement pour Soft Machine, au point de les éclipser un petit peu au départ, et heureusement ils ont fini par bénéficier de cette opportunité d'aller aux États-Unis, de faire cette longue tournée avec Hendrix, qui malheureusement n'a pas porté tous ses fruits, puisque leur premier album en 68 est sorti après la tournée, une fois que le groupe s'était séparé. Donc là aussi il y a eu une occasion ratée à l'époque où le groupe, sans doute, c'est le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, Why Am I So Short, le groupe est encore assez rock avec le chant bien en place à ce moment-là. Bon, évidemment le Soft Machine plus tardif qui devient très jazzy, très instrumental, n'avait pas ce potentiel-là, donc c'est dommage. Je pense que ce groupe en 68 aurait pu, si l'album était sorti à temps, avoir beaucoup plus de succès, quoi.
Oui, puis je crois, si j'ai bien lu aussi, Hendrix aimait bien leur musique.
Ah oui, il était très fan, hein. Il y avait une admiration mutuelle. Et bon, un disque d'archives de Robert Wyatt qui est sorti là, il y a 3-4 ans, Jimi Hendrix est venu jouer de la basse dessus, comme ça. Enfin, non, il y avait vraiment une amitié. Ils partageaient le même management et ils se fréquentaient beaucoup à Londres à l'époque. Et Wyatt était d'ailleurs présent au tout dernier concert de Jimi Hendrix la veille de sa mort avec Eric Burdon là, à Londres. Donc voilà, jusqu'au bout, il le fréquentait, quoi.
Alors, sur l'organisation du livre, comme c'est des collections, alors vous, de l'autre côté de votre poste ou de votre ordinateur, vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais moi oui, forcément, puisque j'en lis énormément des livres de cet éditeur. D'habitude, on a un côté historique dans des livres du genre, et puis des sortes de chroniques de disques assez clairement différenciées. Toi, tu as choisi d'organiser ça par année, avec évidemment d'énormes chapitres sur les années les plus importantes, c'est-à-dire les premières, et ensuite plus on avance vers les années 80 et plus ça se raréfie jusqu'à devenir un dernier chapitre où là tu globalises un petit peu les restes du mouvement, et du coup tu intègres les chroniques de disques à l'intérieur de chaque chapitre. Et ce qui fait aussi la différence et le rythme un petit peu, ce sont des dates et des lieux. Donc je voulais savoir pourquoi tu avais choisi de faire comme ça, une année, une date et un lieu, et on passe à l'année suivante et on intègre des chroniques de disques au milieu.
Alors la forme un peu éclatée s'est imposée à moi parce que par le sujet lui-même, c'est-à-dire qu'on a affaire justement à un mouvement musical avec beaucoup d'interactions entre les musiciens, et suivre le parcours de tel ou tel groupe, comme je l'avais envisagé au départ, faire un gros chapitre sur Caravan, gros chapitre sur Soft Machine, on passait à côté de tout cet aspect d'interaction où à chaque nouvel album de Soft Machine, on trouvait un peu les mêmes musiciens en invité que sur ceux de Caravan, sur Hatfield and the North plus tard, tous ces groupes-là. C'est extrêmement, alors on pourrait dire, les Anglais le disent plus facilement que nous, mais incestueux, quoi. C'est-à-dire que vraiment, dans cette scène-là, un musicien passe d'un groupe à un autre.
C'est une grande famille, quoi.
Voilà, c'est une grande famille, et c'est des recompositions éternelles à peu près du même groupe de musiciens jusque dans les années 80-90. Donc finalement, après avoir testé des approches plus conventionnelles, je me suis retrouvé à vouloir éclater la forme de cette manière. Et puis bon, l'idée de relier chaque mini-chapitre à une date, alors qu'il soit la date d'enregistrement d'un disque, soit la date du premier concert, d'une nouvelle incarnation de tel ou tel groupe, ça m'a paru la forme la meilleure. J'avais peur que ce soit peut-être difficile de rentrer dedans pour les non-initiés, et bon, les gens finalement... je pense parce que les lecteurs qui m'en ont parlé, je pense qu'ils aiment bien picorer finalement, donc ils ont envie d'écouter un disque, ils voient dans quel chapitre, à quelle date on parle de ce disque, et ils rentrent dans le livre sans forcément le lire chronologiquement, donc finalement ça importe assez peu de que ce soit, je pense qu'on arrive malgré tout à suivre.
Alors pour le coup je vais te donner mon avis à moi, sans avoir dit à l'avance.
J'ai défendu ma... ma thèse.
Moi, en tant que semi-béotien, qui connaissait un petit peu, mais pas beaucoup, il faut bien le dire, justement, ça m'a manqué un petit peu les repères, parce que comme moi, je suis absolument assoiffé de découvertes et que j'ai déjà commencé, puisqu'on a vu ça déjà hors antenne, à découvrir pas mal d'artistes, j'aurais apprécié des repères plus clairs, alors pas forcément un top 10 ou un top 20, mais à l'intérieur pour pouvoir différencier par exemple des side projects un petit peu confidentiels et puis les grands albums où on voit bien que là tu te lances dans un discours complètement appréciatif, alors que d'habitude, comme d'ailleurs dans tes autres livres, tu es assez facilement critique, c'est-à-dire que même pour tes groupes préférés, tu as tout de suite la dent dure. Si je prends l'exemple du Caravane dont on a passé un extrait, que tu portes vraiment au firmament, et d'ailleurs que j'ai écouté aujourd'hui même, donc je suis assez d'accord, c'est vraiment un album extraordinaire, et les quelques-uns comme ça qui sont des références absolues sont au milieu du reste.
C'est un peu vrai. Alors bon, là, le Caravane est en couverture, donc on sait qu'il fait partie des quatre vraiment essentiels.
Avec le Rotters Club et sa fameuse pochette, ouais.
C'est vrai que, pour répondre à ta critique, j'ai souvent tendance à parler du livre peut-être avec des gens qui sont déjà fans. Donc l'avis des personnes moins spécialistes est évidemment important à prendre en compte. Mais c'était assez problématique de trouver une approche qui satisfasse à la fois le néophyte et le passionné. Donc je ne sais pas s'il y avait une meilleure solution que ça.
Alors, en même temps, pour ceux qui veulent des repères, tu as fait un arbre généalogique à la fin.
Alors je précise, c'est pas moi qui l'ai fait,
parce
en fait.
Il est facile.
Il est fait par Hélène Berthaud, qui était ma relectrice chez Le Mot et le Reste, et qui m'a suggéré, qui avait été très séduite par tous les arbres généalogiques de Peter Frame et tout ça, disait qu'il fallait absolument un arbre généalogique. Et donc elle s'y est collée elle-même finalement, alors avec des informations que je lui ai fournies et complétées, ça. Mais bon, là aussi, c'est compliqué de faire quelque chose de clair et de facile. Lisible. Surtout dans ce format-là, parce que les arbres généalogiques de Peter Frame, je sais pas
pour
si
ceux
certains...
qui connaissent pas, vous n'avez qu'à faire des recherches Google Images et vous allez voir, c'est extraordinaire.
Voilà, c'est plutôt des grands posters en fait. Donc là, faire ça sur un format de livre comme ça, c'était un peu une gageure.
Alors, on se repère quand même, et c'est vrai que c'est pas facile, mais surtout, on voit, et c'est l'essentiel, à quel point les musiciens passaient d'un groupe à l'autre, parfois arrêtaient puis revenaient dans le même groupe, et à quel point aussi il y avait des points communs. On s'y perd parce qu'il y a une famille, il y a des homonymes qui sont cousins, je crois. Entre les Stewart et les Sinclair.
Ah, pas les Stewart, mais les Miller, les Sinclair, les Hastings.
Voilà, ouais, donc c'est compliqué. Et puis, tu as aussi mis à la fin un paquet de références. Mais alors, je crois que tu n'as même pas mis ton site dans les références.
Ah, si.
Si, il y a ton site.
Même l'adresse d'un blog que je viens d'ouvrir où je commence à mettre pas mal de choses que je n'ai pas eu la place, malgré l'épaisseur extrême de ce livre. Il y avait encore beaucoup, beaucoup de choses que j'aurais voulu mettre au départ.
Ton blog est quand même assez connu, qui est entièrement en anglais. Ton site, pardon, voilà, sur le Rock Canterbury, il s'appelle Calyx, et c'est le nom d'un morceau de Hatfield and the North.
Voilà, j'ai choisi ce nom parce que justement, c'était un morceau sur lequel qui avait été repris à peu près par tous les musiciens, à la fois donc par Hatfield and the North au départ avec Robert Wyatt en invité, et puis aussi par Hugh Hopper, Elton Dean avec Keith Tippett. Donc ça couvre pas mal, c'est une sorte de standard ultime de Canterbury.
Et puis pour finir avec la description un peu globale du livre, parce qu'il est tellement gros que il y a évidemment beaucoup beaucoup de contenu, mais moi par contre j'ai trouvé vraiment très utile à la fin le portrait des 10 personnalités qui reviennent le plus, et c'est vrai que pour avoir connu quelqu'un qui a connu Pete Pyle, voilà, moi j'en avais entendu parler de ce batteur avant même de connaître les rudiments du rock de Canterbury. Je savais même où il habitait en banlieue parisienne, et donc il fait partie de ceux qui sont morts d'une façon particulièrement regrettable et tragique et prématuré, bien sûr. Ouais. Et pour le coup, voilà, c'était en plus le côté français qui venait s'ajouter, quelqu'un qui s'était installé en France, qui avait joué avec des musiciens français. Et il fait partie des personnages qu'on revoit mais très très souvent dans le livre, ouais. De même que plein d'autres, évidemment Robert Wyatt, ouais. Rattle Edge, etc.
Bah justement, cette liste de 10 musiciens, ça a pour but de préciser que c'est avant tout ces 10 personnages-là que je suis, puisque c'est des gens dont j'estime qu'ils sont synonymes un peu de la scène de Canterbury. Quand on dit Richard Sinclair, Hugh Hopper, Mike Rattle Edge, bon, on dit Canterbury, quoi. C'est vrai que quand on dit, par exemple, Didier Malherbe de Gong, bah, on pense aussi au Hadouk Trio, on pense ouais. à d'autres choses. C'est peut-être moins réductible à ça, mais là, c'est vraiment ces 10 personnages que je voulais suivre.
Alors maintenant, c'est le moment du troisième grand de ce livre et de l'école de Canterbury, même si stylistiquement, il a beaucoup, beaucoup bougé. Gong, un extrait de l'album Camembert électrique, et vous allez voir que le nom français n'est pas un hasard, 1971, You Can Kill Me. Tout de suite sur Judaïk FM et dans Rockoscopie. Well, you can kill my father. You can kill my sons. You can kill my children. With a gun. You can kill my family. The family tree. You can kill my body, baby. You can kill my body, baby. Cosmico-comique de Gong sur l'album Camembert électrique. Alors ce qui est intéressant avec ce groupe, qui fait partie de ceux que suit le livre L'école de Canterbury, je vous rappelle que c'est le sujet de l'émission de ce soir de Rockoscopie avec Aymeric Leroy qui en est l'auteur, on suit le parcours incroyable de Gong Et c'est aussi l'illustration d'un rapport particulier avec la France qui n'a pas toujours été très très à l'avant-garde de l'accompagnement des mouvements rock intéressants. Et là, pour le coup, alors c'est pas, peut-être pas seulement parce que David Allen s'est retrouvé coincé un jour avec une histoire de papier, Gong étant un groupe au moins pour, je sais pas, la moitié de sa carrière franco-anglo-australien, mais les Français ont, semble-t-il, bien accueilli cette musique.
Oui, et d'ailleurs, ça remonte avant la petite mésaventure de David Allen, puisque Soft Machine, avant qu'il, justement, David Allen reste coincé en France en 67 en revenant de Saint-Tropez avec Soft Machine, bah, le groupe avait déjà eu un certain écho en France. Et ce qui avait beaucoup plu à l'époque, alors au départ c'est une certaine élite un petit peu de mélomanes assez pointus, mais ça s'est étendu assez rapidement grâce à des gens comme Pierre Lattès ou Jean-Pierre Lantin, à qui je rends hommage, des gens d'actuel ou de la radio également. Au départ, ce qui plaisait chez Soft Machine notamment, c'était ce côté, toutes les références un peu extra-musicales qu'ils maniaient, c'est-à-dire toutes les références à la pataphysique, des morceaux qui s'appellent Thank You, Pierrot Lunaire, des petites références comme ça. Un côté un petit peu intello, mais en même temps sans prétention. Et puis cette musique assez sophistiquée, mais en même temps pop.
Pas très agressif finalement.
Ça dépend, parce que Soft Machine, au départ, avec l'orgue saturé de Mike Rutledge, hein, c'était quand même assez, pour les oreilles, c'est un peu atténué sur disque, mais à l'époque, ils avaient la réputation de vraiment déménager au niveau du bruit, quoi. C'était assez puissant.
Et cet orgue saturé qui est une sorte de signature esthétique du mouvement aussi. Hein.
Voilà, c'est la signature soliste de tous ces groupes, à la fois Soft Machine, Caravan, Hatfield and the North. C'est l'instrument soliste par excellence. De préférence à la guitare, qui souvent est soit carrément absente, soit plutôt un rôle rythmique, comme dans Caravan, où il y a très peu de solos de guitare.
Alors évidemment, on ne peut pas rentrer en détail, mais en quelques mots, en quelques phrases, Gong et la France, le fait que des musiciens français se soient greffés là-dedans, alors que le rock en France, à ce moment-là, était quasiment inexistant, à part peut-être Magma et Ange, qui d'ailleurs ne se fréquentaient pas, et Magma déteste Ange, je parle au présent. Hein. c'est quand même assez particulier, ça. On se dit, mais c'est quelle gloire pour un Français d'avoir été accepté dans un groupe.
Oui, mais alors ce qu'on voit par exemple, un Didier Malherbe, je reprends la citation dans mon livre, bah, il raconte que voir Soft Machine en concert en 67, ça a changé sa vie parce que lui venait du jazz, il s'intéressait à la musique indienne et tout ça, pas trop à la pop. Et l'idée de voir des musiciens comme ça jouer une musique aussi aventureuse dans un cadre pop, ça l'a beaucoup inspiré. Et dès qu'il a pu rencontrer David Allen, ils ont parlé de collaborer ensemble, quoi. Donc il était attiré par ce genre de contexte-là, quoi. Donc il y avait des musiciens. Alors la première section rythmique de Gong, c'est pareil, Christian Tritsch, Rachid Wari qui joue sur les premiers disques, c'est des gens qui jouaient avec Claude François avant. Et en 68, ils ont dit bon, ras-le-bol de faire de la variété, on va faire de la musique aventureuse. Et là aussi, ils se sont greffés. Donc il y avait une vraie attente de la part d'une génération de musiciens français. Et d'ailleurs, dans la foulée de Gong est apparu tout ce qu'on a connu, les Martin Circus, les Alice, toute cette génération de groupes pop. Plus tard, des Moving Gelatin Plates, des groupes comme ça. Et il y a tout un mouvement qui s'est révélé être très en phase avec, en particulier, cette scène de Canterbury, qui fait que la France, avec les Pays-Bas, est devenue la terre d'élection des groupes de Canterbury et les lieux où il y avait le plus de groupes influencés par eux, avec l'Italie également.
Alors, il y a un personnage, on t'en parlera qu'ici, donc j'y vais, hein, c'est Bob Benamou. J'ai trouvé ça très sympa, ce truc. Il avait l'air sympa, ce gars-là. Il a donné un peu d'argent pour aider les gens à un moment.
C'était un antiquaire qui avait mis un peu d'argent de côté. Il a mis pendant quelques années tout l'argent qu'il avait mis de côté. Et puis, quand il n'y en avait plus, il a dit je claque ma porte et je reviens à mon métier d'antiquaire. Et d'ailleurs, moi, quand je l'ai interviewé, c'était près des Champs-Élysées, dans ses locaux, quoi.
Ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours cette histoire de bienfaiteur d'un genre ou un autre, parce que d'une certaine manière, et ça, les gens l'ignorent peut-être aujourd'hui, mais le label Virgin Music n'existe plus, mais à ses tout débuts, heureusement, ils ont fait beaucoup d'argent avec Mike Oldfield, mais ils ont énormément soutenu ce mouvement-là, et parfois à fond perdu.
Au départ, oui. Alors bon, ceci dit, c'est vrai, à fond perdu dans un premier temps, mais en tout cas, ils avaient fait passer aux musiciens des contrats qui garantissaient que dès que les musiciens gagnaient un peu d'argent, ça allait quand même dans leur poche. Mais Mike Oldfield, ce qui est amusant, c'est que c'est quand même quelqu'un, au départ, d'avec un pedigree Canterbury, puisque c'était au départ le bassiste de Kevin Ayers. Donc il s'est retrouvé un peu là par hasard, et ça a été un hasard miraculeux pour Virgin de tomber sur ce mec-là qui avait évidemment un potentiel commercial bien plus grand que tous les autres qui ont vivoté un peu à ses côtés.
Mais qui, lui, Oldfield, n'a pas pas grand-chose à voir avec le style de Canterbury.
Disons de moins en moins au fur et à mesure qu'il a évolué dans sa carrière solo, mais il y a une très belle vidéo sur internet où il joue Tubular Bells et on voit tous les musiciens de Gong, de Soft Machine, de Enrico autour de lui. Donc au départ il a baigné dans cette petite famille là quoi.
Alors on va écouter un petit peu de Hatfield and the North tout à l'heure, mais pas tout de suite, parce que j'aimerais quand même que tu évoques l'énorme corpus de citations que tu amènes dans le livre, et notamment les rencontres que tu as pu faire toi. Ouais. Donc je voulais savoir dans quel cadre, et ça apparemment depuis un certain nombre d'années, tu as rencontré beaucoup de ces musiciens-là finalement, ou en tout cas tu as parlé avec eux, tu as échangé avec
eux. Tout à fait. Alors moi j'ai créé le site Calix en 96 et j'ai commencé à être un peu le relais de toutes les annonces de dates de concert et tout ça. Donc j'ai croisé un petit peu les musiciens, j'ai aussi été le réceptacle de pas mal de mails, de fans et tout ça, qui m'apportaient des infos, qui m'en demandaient et tout ça. Donc autour de ça s'est construit une base d'informations que j'ai voulu un peu faire fructifier et compléter. Donc c'est là que je suis allé à la rencontre des musiciens. À chaque fois que j'allais à Londres, j'allais essayer d'interviewer un tel ou un tel, et j'en ai interviewé plusieurs dizaines comme ça.
À Canterbury, bon, t'as été ou pas?
À Canterbury, même moi j'ai interviewé les gens de caravane à Canterbury, par exemple.
C'est une ville qui t'a plu à part ça?
Disons qu'elle a pas forcément extérieurement de rapport avec cette scène-là. On sent pas en se baladant dans Canterbury des effluves de l'esprit de cette musique dedans, mais le fait est que certains musiciens sont restés basés là-bas, c'est un peu leur racine, quoi. Mais donc j'ai fait toutes ces recherches au début avec l'intention un peu vague d'en faire un livre, intention un peu présomptueuse au départ. C'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps pour arriver à faire le livre. Je pensais au départ que juste accumuler l'info ça suffirait, mais bon, quand on se rend compte après de ce qu'il faut faire pour transformer ça en livre, c'est une autre paire de manches. Donc voilà, c'est un peu comme ça que c'est né. Je regrette pas de l'avoir fait, puisque beaucoup malheureusement nous ont quittés maintenant, et j'ai un peu accumulé une sorte de trésor de mémoire de tous ces musiciens là qui autrement, certains je suis le seul à les avoir interviewés.
Et en plus ces témoignages le montrent, et l'évolution des groupes aussi, beaucoup ont arrêté la musique complètement, ou en tout cas l'ont arrêté pendant de longues périodes. Tu racontes comment certains ont fait de véritables petits boulots artisanaux alors qu'ils étaient des musiciens très importants sur 3 ou 4 albums indispensables pendant 5 ans avant, quoi.
Oui, ça, là, je cite l'exemple de Hugo Pearl notamment, qui a été chauffeur de taxi, qui travaillait même à l'office du tourisme de Canterbury, ce qui est assez cocasse parce qu'on imagine quelqu'un qui arrive et qui dirait j'adore la musique de Canterbury, il serait tombé sur la bonne personne en l'occurrence. Mais voilà, par intégrité et aussi par manque de succès, il faut bien le dire, Hugo Pearl, c'est parce que simplement du jour au lendemain il n'y avait plus de demande de concert, quoi, c'est tout.
Allez, comme le temps file, on ne va pas se dispenser d'écouter Hatfield and the North avec un extrait de son album Rotters Club, et on se retrouve dans 3 minutes. Self to me, I'll help myself to you and all your friends. We can spread it around. So if you can spare it, then on and share it. Let's get on with it, 'cause we're wasting our time. That on TV, most especially adverts of some slinky hairspray when the plastic actresses take off their clothes just to demonstrate all their curves and cleavages and subtleties, quite forgetting their hair. But please do not take it seriously, really. What a joke. We'll be right back.
Rockoscopie, l'actu rock du dimanche sur Judaïque FM.
Rockoscopie, bah on va se dire au revoir. Et oui, le temps est passé extrêmement vite parce que figurez-vous qu'on a abordé uniquement quelques grandes lignes de ce gros bouquin de quasiment 700 pages, je ne l'avais pas encore dit, L'école de Canterbury, donc d'Emeric Leroy. Et c'est paru au mot, chez Le Mot et le Reste il y a à peu près 2 mois. Mmh. Et donc vous allez pouvoir, en vous plongeant dans ce livre, découvrir cette incroyable discographie de l'école de Canterbury. Tout a été relativement bien réédité quand même, hein, sur les grands disques. Hein.
Oui, alors tout n'est plus forcément trouvable, mais à un moment ou à un autre, tout a été réédité. Puis on en discutait tout à l'heure en antenne, mais c'est vrai qu'il y a énormément de disques d'archives qui sont sortis aussi. Soft Machine, je disais, il y a une bonne vingtaine de disques vraiment de très bonne qualité, issus d'émissions de radio, voilà, de divers documents comme ça. Quoi. Donc c'est quelque chose qui continue à intéresser et de justifier pas mal de nouvelles sorties, même 30 ou 40 ans après.
Alors, comme c'est un petit label, on peut quand même en parler sans considérer que ce soit de la grosse pub. Il y a le label Ésotérique, hein, en Angleterre.
Voilà, qui réédite ça plutôt les albums studio, Hatfield, National Elf, tout ça. Puis bon, Cuneiform est sans doute le principal pour tout ce qui est archives historiques.
Voilà, un label américain qui a d'ailleurs son propre magasin. On peut y trouver pas mal de choses par correspondance. Alors, je pense qu'on a quand même réussi avec ces 4 morceaux à montrer à peu près ce qu'était ce style, notamment avec ces sons de clavier assez étonnants qui peuvent sonner, hein, pour Hatfield and Arfield, un peu kitsch aujourd'hui, mais c'est toute une époque. Et puis, il y avait quand même beaucoup de recherches. Et justement, dans ces années 70-là, c'était très original et c'était une musique assez complexe aussi. On n'a pas eu le temps non plus de parler de l'obsession des rythmes impairs que partageaient beaucoup de ces groupes.
Mais je crois que tu vas faire une émission sur ce sujet bientôt, hein. j'ai cru comprendre.
Bah, et du coup, forcément, dans mes spéciales mesures impaires de Je crois qu'on est auteur, il y aura beaucoup plus de Canterbury qu'avant, puisque je découvre, moi, beaucoup de choses qui vont être, du coup, de la matière pour ce thème-là. Et on peut dire aussi, puisqu'on a encore deux minutes, que ton site est plein de références là-dessus et qu'il faut y aller.
Oui, alors mon site, c'est avant tout une base une discographie notamment, alors des annonces de concerts aussi. Au début, je mettais pas mal de matière, des interviews, des choses comme ça. Et puis quand le livre a commencé à prendre forme, ça a devenu la priorité. Donc le site n'a pas forcément énormément évolué depuis 15 ans, mais en tout cas, ça reste une bonne base discographique, je crois. Bon, pour tout le reste, évidemment, le livre est beaucoup plus riche.
Alors, donne l'adresse du site quand même.
Alors, l'adresse actuelle, c'est calix.club.fr. Donc cherchez Calix Canterbury sur Google et vous tomberez tout de suite dessus.
Voilà, bah écoute, merci beaucoup Emeric. On rappelle que au rayon musique de votre librairie préférée, vous allez trouver ce bouquin avec les 4 pochettes d'albums qui sont 4 des plus grands albums, hein, comme le veut la tradition de cette collection de l'école de Canterbury. On a notamment Rock Bottom de Robert Wyatt dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui est un album qui dégage une émotion absolument unique dans l'histoire du rock. Écoutez-le et vous allez voir qu'il va se passer plein de choses en vous, tellement il y a de sensibilité à fleur de peau dans ce disque qui est adoré par des gens bien au-delà de ce style et même du rock progressif et même du rock anglais.
Qui est à la fois inclassable et puis qui a quand même cette touche Canterbury vraiment encore à ce stade-là. Un peu moins sur cet album suivant, mais celui-là encore.
Et puis donc merci à Antoine qui était à la technique. Moi je vous retrouve dans 2 semaines avec aussi un phénomène un petit peu oublié qui me passionne moi toujours plus, c'est le rock progressif italien. Quelques années avec beaucoup d'artistes qui n'ont fait 1 ou 2 albums et donc on aura l'auteur d'un livre Louis Denis sur ce genre-là en français, ce qui est relativement inédit. Et 2 semaines plus tard, on aura un groupe pop français, mais figure-toi, qui fait du rock en mesure impaire. Donc c'est assez original, il s'appelle Austerlitz. Et en attendant, dans Chemin Compte de Hauteur, dans 1 semaine, ce sera spécial mesure impaire, mais oui. Donc tout va bien sur Judaïque FM. Tout de suite, vous retrouvez Livre au Café des Psaumes. N'oubliez pas le blog judaïquerock.blogspot.fr. Cette émission sera disponible en podcast d'ici une demi-heure. Très bonne soirée et à bientôt.
Rockoscopie, la culture rock sur Judaïque FM. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site de Judaïque FM, www.judaïquefm.com.